Vous souvenez-vous, il y a quelques semaines, Monseigneur Raoul Björd était l'invité de la matinale, évêque de la Guaira. Il était venu présenter la situation dramatique dans laquelle vit le Venezuela. Il donnait pour cela une conférence pour montrer le rôle éminemment central de l'Église sur le terrain. Cette conférence était organisée par l'aide à l'Église en détresse. À cette même occasion, le directeur de cette association était aussi dans nos studios. Alors évidemment, l'opportunité était toute trouvée pour que celui-ci nous donne des nouvelles de l'Église souffrante et espérante dans le monde. Bonjour Benoît de Blanpré.
Bonjour.
Alors, l'aide à l'Église en détresse a été fondée en 1947, si je ne me trompe pas, par le père Werenfried. Elle a une dimension internationale. Quelle est en fait sa raison d'être ?
Notre mission, c'est de soutenir l'Église souffrante partout dans le monde. Souffrante soit parce qu'elle rencontre des difficultés matérielles, et aussi, et très souvent aussi, lorsqu'elle est persécutée ou menacée. Donc partout où les chrétiens ont des difficultés à vivre leur foi, l'AED est présent à leur côté.
Et donc sa mission se décline sous quelle forme ?
On a trois missions principales. La première, d'abord, c'est une mission d'information. C'est de faire savoir la situation des chrétiens dans le monde. Et vous savez, quand je vais sur le terrain, la première chose que me disent les chrétiens que je rencontre, c'est « merci de ne pas nous oublier ». Parce que déjà, ils souffrent, mais la double peine serait qu'on ignore leur souffrance. Donc, notre première mission, informer pour faire savoir la situation de nos frères. Et on va en parler dans beaucoup de pays du monde, elle est bien difficile. Notre deuxième mission, c'est de soutenir l'espérance de nos frères chrétiens par la prière. Donc, nous organisons des temps de prière, nous invitons à la prière, parce que bien souvent, une fois qu'on a l'information, on est souvent démunis, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, une première chose qu'on peut faire tout simplement, c'est déjà de prier pour nos frères chrétiens souffrants, qui souffrent par fidélité au Christ. Donc, de les porter tout simplement par la prière. Et nous savons que cette prière est source d'espérance. Et dernière mission ensuite, c'est être acteur de la charité. Concrètement, nous finançons des projets sur le terrain pour permettre, grâce à nos bienfaiteurs, pour permettre à l'Église de vivre, de survivre et de rayonner là où elle est, malgré les difficultés.
Allez, on plonge, Benoît de Blanpré, vous allez nous donner un petit peu la situation de la liberté religieuse et des chrétiens dans le monde. Globalement, comment ça se passe pour les chrétiens ?
Vaste sujet, vaste programme. J'ai envie de dire, la liberté religieuse, toute religion confondue, bien malheureusement, ne va pas très bien. Tous les deux ans, on édite un rapport qui fait un point de situation. Et on estime aujourd'hui que dans un pays sur trois dans le monde, les religions ne peuvent pas s'exprimer librement. Que ce soit les chrétiens, les musulmans ou les juifs, ou quelle que soit la religion, les gens sont menacés, persécutés en raison même de leur foi. Un pays sur trois, c'est quand même c'est très important, une soixantaine de pays, avec des situations bien diverses, bien sûr, d'un continent à l'autre, mais on s'aperçoit que la liberté religieuse, qui pourtant est un droit fondamental. On touche là au plus intime de la personne, sa relation à une transcendance. Eh bien, dans beaucoup de pays, cette liberté essentielle et fondamentale est bafouée.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes présent, Benoît de Blanpré, avec l'AED sur tous les continents ?
Oui, vraiment sur tous les continents. Aujourd'hui, l'AED, l'aide à l'Église en détresse, nous agissons dans 140 pays dans le monde. Je crois qu'on dit qu'il y a à peu près 192 pays. Donc vous voyez, 140 pays, c'est tous les continents avec, encore une fois, des situations très diverses. Pour commencer, peut-être que je peux parler dès à présent de la situation en Afrique et oui, tout spécialement au Sahel, où le djihadisme se répand de manière très profonde, très continue, très violente et vient semer la terreur dans des pays qui auparavant vivaient parfaitement la coexistence entre chrétiens et musulmans. C'est ça qui frappe le plus les populations locales, c'est de dire « mais avant, dans un même village, il y avait des chrétiens et des musulmans. »
Et vous voulez dire que c'est le djihadisme qui attise en fait
qui vient exciter des querelles, soit des querelles existantes, soit inventées, et qui vient dire « mais vous voyez, si lui est plus riche que vous, c'est parce qu'il est chrétien, si lui a des terres, c'est parce qu'il est chrétien ». Et du coup, le djihadisme se sert de ces raisons réelles ou supposées pour exciter des violences. Et puis le djihadisme se répand beaucoup dans des pays où les États sont faibles, et beaucoup dans des pays pauvres. Et du coup, vous savez, il suffit de donner un peu d'argent à un plus pauvre, de lui promettre une télévision ou une moto et lui mettre une arme entre les mains, de lui désigner un ennemi pour aller commettre des exactions. Donc au Sahel aujourd'hui, et je pense tout spécialement au Nigeria, avec Boko Haram, vous savez, ce mouvement djihadiste extrêmement violent, sème profondément la terreur dans le pays, et l'Église reste présente auprès des populations.
Même si elle est minoritaire quand même.
Elle est minoritaire, mais si elle s'en va, les familles se retrouveraient seules. Donc notre mission dans ce cas-là, c'est de permettre à l'Église très simplement de rester. Donc on soutient les prêtres, on soutient les évêques pour leur dire surtout restez, parce que vous êtes le dernier rempart contre la violence.
Et donc c'est un soutien qui se matérialise comment ?
Et plusieurs formes, soit c'est des aides à la subsistance, permettre aux prêtres de toucher un peu d'argent pour vivre, soit ça peut être pour l'achat d'équipements, pour permettre là aussi aux prêtres d'exercer son ministère, et puis si l'église a été pillée, détruite ou brûlée, alors nous contribuons à sa rénovation, sa reconstruction, pour permettre de rebâtir l'église au cœur du village, permettre aux religieux, aux religieuses d'exercer leur ministère, et du coup aux familles d'être écoutées et accompagnées, malgré les difficultés qu'elles rencontrent.
Oui. Vous disiez, Benoît de Blanpré, que l'aide à l'église en détresse était présente sur de nombreux pays, une grande majorité, et puis sur malheureusement tous les continents. Oui. Quelle est la situation des chrétiens en Asie ?
Elle est compliquée et elle est très variée. L'Asie, c'est un continent immense. Hein. On peut aller au Pakistan, en Afghanistan, aller vers la Chine, l'Indonésie. Et je connais bien l'Asie pour y avoir vécu de nombreuses années. Les situations sont très variées. Peut-être que je pourrais vous parler spécialement de la Chine. Mmh. Immense continent où la liberté religieuse est profondément menacée. On a constaté ces dernières années, notamment, le déploiement de technologies de surveillance de masse qui permettent de surveiller les comportements de la population. Et chaque Chinois a une forme de crédit social, des points.
Comme un permis à points,
mais de comportement. Et selon votre comportement, surveillé par des caméras. On dit qu'aujourd'hui, il y a 626 millions de caméras de surveillance en Chine. 626 millions. Ces caméras surveillent en permanence le comportement de la population et selon vos fréquentations, selon votre pratique religieuse, vous perdez des points. Et moins vous avez de points, moins vous avez accès à des allocations. Certains métiers peuvent vous être interdits. Donc la population est surveillée en permanence. Et il se trouve que j'ai interrogé un prêtre des missions étrangères de Paris, qui sont très présent en Asie, pour vérifier la véracité de cette information. Il m'a dit qu'effectivement, cette technologie de surveillance de masse s'était déployée sur toute la Chine et que surtout le pays aujourd'hui vendait cette technologie à d'autres pays autoritaires qui seraient tentés de pouvoir surveiller leur population très facilement et de pouvoir savoir qui fait quoi et du coup d'interdire certains comportements.
Est-ce que vous voulez dire qu'un chrétien en Chine, il perd des points si on le voit entrer et sortir d'une église ?
Exactement.
Un autre pays que vous vouliez peut-être nous citer en Asie, c'est l'Inde, avec une situation complètement différente.
Voilà,
passe bien.
Exactement, c'est une autre réalité, une autre culture, une autre religion. En Inde, qui peut effectivement apparaître de loin comme un pays calme et prospère, d'abord c'est un immense continent, donc je veille toujours à ne pas trop généraliser les situations, mais ça permet d'avoir un premier aperçu. Il y a un mouvement très profond qui est un mouvement de priorisation de l'Inde aux hindous. C'est que pour être pleinement du pays, il faut être d'abord pleinement citoyen, il faut notamment pratiquer la religion hindoue, c'est ce qu'on appelle le mouvement de l'Intuva, et qui fait que si vous n'êtes pas de la religion majoritaire, et si vous n'êtes pas originaire du pays, alors vous êtes un citoyen de seconde classe. Et vous savez qu'en Inde, le principe des castes est tout à fait...
Et très prégnant.
Et prégnant dans la population. Donc ça paraît assez naturel que si vous n'êtes pas hindou, alors vous n'avez pas les mêmes droits que le reste de la population. Et en ce sens, chrétiens et musulmans se retrouvent dans les menaces et les persécutions. Et nous avons pu voir, notamment au nord-ouest du pays, que pendant la crise de Covid-19, les chrétiens et les musulmans n'avaient pas le droit à certains soins ou certaines aides populaires pour vaincre la maladie, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas de la religion majoritaire. Donc c'est un pays complexe où être chrétien ou être musulman ne donne pas les mêmes droits que le reste de la population.
Oui, c'est un motif de discrimination, hein, très clairement. Oui, oui. Vous disiez au début de notre entretien, Benoît de Blanpré, que les chrétiens qui vivent des situations de persécution ou d'extrême pauvreté et que l'aide à l'Église en détresse soutient sont malgré tout témoins de l'espérance. Est-ce que ça ne serait pas une leçon pour les catholiques de France ?
Alors, c'est une très belle question. J'ai la grâce de travailler pour l'AED depuis 2 ans, et c'est vraiment ce qui m'émerveille. C'est que, à la fois, nous appelons l'aide à l'Église en détresse. Donc, notre métier, c'est d'aller auprès des chrétiens souffrants. On l'a dit, soit parce qu'ils sont persécutés ou menacés ou pauvres. Mais je découvre à la fois des situations d'extrême difficulté et des grands sourires. Parce que ce que je constate, c'est qu'au cœur de la détresse se niche l'espérance. Et que détresse et espérance ne sont pas antinomiques. La détresse, c'est objectivement une difficulté que vous rencontrez circonstancielle. Mais des chrétiens souffrent parce qu'ils sont chrétiens et parce qu'ils sont fidèles au Christ. Mais dans le même temps, ils me disent qu'ils savent que malgré ces difficultés, le bon Dieu prend soin d'eux, que le Christ leur tient la main. Et ça les remplit d'une joie profonde, d'une joie parfaite, la joie des amis de Dieu. Et l'espérance, ça n'est pas tant de penser que demain tout ira mieux, ça c'est l'espoir. L'espérance, c'est de croire profondément que malgré les difficultés que je vis, Dieu reste présent à mes côtés. Et en ce sens, nos frères chrétiens souffrants dans le monde nous enseignent. Ce sont vraiment nos frères dans la foi.
Et vous en êtes vraiment témoin parce qu'en tant que directeur de l'aide à l'Église en détresse, vous avez ces retours des évêques, des prêtres qui sont sur le terrain de ces chrétiens.
Un évêque du Nigeria, très marqué par le djihadisme, disait « Boko Haram peut tout nous retirer sauf notre foi, peut tout nous arracher sauf notre foi ». Extraordinaire. Monseigneur Björd, il y a quelque temps, du Venezuela, alors que son pays traverse une crise économique, sociale, politique majeure, et avait hâte de retourner dans son pays, au cœur de son diocèse, pour vivre sa foi, témoigner de sa foi. Cette église, elle est absolument merveilleuse. J'ai rencontré aussi, il y a quelque temps, un évêque du nord du Cameroun, qui est à la frontière du Burkina Faso. Au nord du Cameroun, il y a 60 000 réfugiés dans des camps de réfugiés. La situation, le pays est pauvre. En plus, ils reçoivent des réfugiés du Nigeria. Et il était de passage pour nous voir. Et lui aussi, il avait hâte de retourner dans son diocèse pour vivre sa foi, témoigner de sa foi, soutenir ses frères. Et son enthousiasme, malgré les difficultés, c'est vraiment cette espérance dont nous voulons être les témoins.
Merci beaucoup de votre témoignage à vous. On ne s'arrêterait plus. Merci beaucoup, Benoît de Blanpré, d'être venu témoigner de cet engagement de l'aide à l'Église en détresse. Cette association, comme vous le disiez, veut être au service de la vérité et témoin de l'espérance. Merci.
Merci beaucoup.